Sur Radio Campus Tour. Chers auditeurs, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la douce voix de la Méridienne. Auditeurs, auditrices, connaissez-vous le festival Femmes en campagne à Rouviers de Touraine? Eh bien, sachez que cette année, dans le cadre de ce festival, se tenait une exposition nommée Quel féminin? Point d'interrogation. Dans cette exposition, parmi les artistes, vous pouviez voir le travail de Marguerite Sempré et de Maëlys Paris. Aujourd'hui, les deux sculpteurs sont dans notre émission et elles sont les invitées de Matisse et Shona.
Bonjour, moi c'est Mathis et aujourd'hui comme invité on a Maëlys et Marguerite qui sont deux sculpteuses qu'on a rencontrées dans une exposition pas très loin de la Membrolle.
Et moi c'est Shona.
Maëlys, Marguerite, déjà en quoi consiste le métier de sculpteur?
Bonjour, je vais laisser la parole à Maëlys pour présenter le métier.
Le métier de sculpteur tel qu'on le pratique c'est très très diversifié. On travaille surtout le bois. Mais le métier sculpteur, c'est plus large que ça. Il y a des sculpteurs qui vont travailler sur des matériaux de synthèse pour des décors de cinéma. Il y en a qui vont travailler la pierre. Il y en a qui vont travailler
la terre.
Et même nous, dans le milieu du bois qui est assez restreint, on fait des choses très, très différentes. On va travailler sur de la restauration, des chantiers de patrimoine, des choses plus créatives, des commandes particulières qui peuvent être vraiment très diversifiées. C'est très large, c'est très divers, chaque projet est différent.
Et du coup, vous aviez dit que vous travailliez sur tout le bois, mais pourquoi du coup?
Alors moi, j'ai découvert le bois surtout par le biais de l'école que j'ai faite, parce que c'est une école où on travaille essentiellement du bois. Et je travaille un peu la pierre aussi. Alors dans le bois, ce que j'aime bien, c'est que c'est un matériau assez chaud à travailler. Enfin, par rapport à la pierre qui est beaucoup plus poussiéreuse, qui est plus froid même physiquement. Et dans le bois aussi, ce qui est assez agréable, c'est toutes les teintes de bois qu'on peut avoir. C'est vraiment la chaleur du bois que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que souvent, quand je fais de la création, je travaille plus la pierre. Parce que j'aime beaucoup aussi le côté très uniforme de la pierre. Enfin, en tout cas, je travaille une pierre très blanche. Et donc, on peut retrouver des... Enfin, ça a l'air beaucoup plus pur souvent que le bois. Parce que dans le bois, il y a toujours des traces de cernes du bois. Il y a plein de petits éléments qui viennent se mettre dedans, en fait. Et dans la pierre, ce que j'aime bien, c'est ce côté très blanc et très épuré. J'ai pas vraiment de préférence, mais et je trouve que la pierre, en tout cas, je travaille la pierre calcaire, ça se travaille plus vite aussi que le bois. Et donc, il y a un côté où on arrive plus vite à un résultat, c'est aussi plus agréable. Enfin, c'est assez varié, ouais.
Ok. Ça a été quoi votre parcours pour devenir sculpteur? Les études que vous avez faites?
Moi, de mon côté, j'ai fait un bac général scientifique à l'époque. C'est plus comme ça maintenant. Mais... Après, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'école Boulle pendant 3 ans. C'est une école qui enseigne tous les métiers qui sont liés au mobilier, à tous les métiers d'art, des métiers manuels. Il y a menuiserie, ébénisterie, sculpture sur bois. Il y a aussi de la bijouterie. Enfin, il y a beaucoup de métiers différents qui sont enseignés là-bas. Puis je suis partie 2 ans en Italie, où j'ai fait 2 ans dans une petite école qui était spécialisée plutôt toujours en sculpture sur bois, pour faire plutôt des statues, des personnages, apprendre plutôt la représentation humaine, tandis qu'à Paris, à l'école Boulle, c'était plutôt l'ornementation, c'est-à-dire tout ce qui va être plutôt à plat, sur des boiseries, sur des meubles, des petites feuilles, des fleurs, des décors, et après plutôt les personnages en Italie. Et ensuite, dans mon travail, dans ma vie professionnelle, je fais les deux, mais plus orienté vers tout ce qui est personnage, parce que c'est ce qui me plaît plus.
Okay. Alors, de mon côté, j'ai fait la même école de sculpture que Maëlys, mais pas directement après mon bac. J'ai fait un bac général aussi. Et après, moi, j'ai entamé des études d'histoire et puis d'histoire de l'art. Et en fait, c'est à la fin de mes études d'histoire de l'art que je me suis dit que j'aimerais bien m'orienter toujours dans l'art, mais vers un métier plus manuel. Et donc, j'ai visité des écoles d'art. Et en fait, en visitant l'école Boulle, c'était aux portes ouvertes. Je suis allée dans l'atelier de sculpture un peu par hasard. J'ai eu un énorme coup de cœur et je me suis dit que c'est ça ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être prise. Mais en fait, j'avais jamais sculpté, j'avais jamais modelé avant. Et donc, c'était vraiment une vraie découverte pour moi. Et j'ai tout de suite adoré. Et donc après, mais bon, comme j'étais déjà âgée, j'ai pas fait comme Maëlys, je suis pas allée en Italie pour me perfectionner un peu dans la statuaire et tout. Donc je suis restée un peu dans ce côté ornement de la sculpture et un peu décoratif sur le mobilier, etc. Et donc ensuite, après, en sortant de l'école, j'ai travaillé dans différentes entreprises et j'ai ouvert mon auto-entreprise aussi. Et c'est dans ces différentes entreprises que j'ai découvert aussi encore plus de manière de sculpter et d'autres matériaux, etc. Voilà.
Ok. Du coup, comme autre question, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier et depuis combien de temps, du coup?
Donc moi, je suis sortie de l'école en 2018, donc ça va faire 5 ans que j'exerce. Et ce qui m'a amené à faire ça, c'est ce que je disais, c'est vraiment un peu ce côté... Donc j'étais... Dans mon parcours, dans mes études d'histoire de l'art, j'étais vraiment touchée par l'art et c'était quelque chose que j'aimais beaucoup et que je découvrais en fait par mes études. Et parce qu'à un moment, j'avais pensé à faire de la restauration, mais en fait, dans la sculpture et telle que je la fais aujourd'hui, il y a plus de création et c'était ce côté créatif en fait qui m'attirait énormément. Le fait de me dire, je suis pas juste là pour réparer une œuvre et être un peu invisible derrière cette réparation. Mais j'ai vraiment envie de m'exprimer moi dans la sculpture et du coup d'en faire quelque chose, d'y mettre un peu de moi à l'intérieur, quoi. Voilà.
Ok.
Du coup, moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique dans mon enfance, etc. Puis j'étais un peu encouragée par mes parents parce qu'ils voyaient que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. J'ai été attirée par tout ce qui était métier manuel aussi, pour ce côté de créer quelque chose à partir de rien. Il y a quelque chose d'assez magique là-dedans. Et ensuite, dans ma recherche, je suis aussi allée aux portes ouvertes à l'école Boulle. Et quand j'ai vu l'atelier, pareil, j'ai flashé. Et pour moi, ça allie deux choses que j'aime énormément. C'est le côté créatif. De la sculpture. La sculpture, c'est un peu gratuit. On ne va pas faire un meuble ou un objet qui va servir à quelque chose. On fait juste un truc qui ne sert à rien, mais qui est joli. Et en même temps, le côté artisanal de la sculpture sur bois, parce que faut savoir se servir de machines, faut savoir se servir des outils, faut savoir les entretenir. Il y a un côté concret, très technique. Et la balance des deux me plaît. Je pense que j'aurais pas pu faire la création si j'avais pas eu une technique un peu présente. Y a un côté qui ramène un peu à quelque chose de plus terre à terre quand on travaille le bois, parce que c'est contraignant. On peut pas le couper n'importe comment. C'est un matériau qui est assez dur. Et ça. Ça me plaît. C'était quoi la suite de la question ?
Depuis combien de temps ?
Ah oui, merci. Ça fait 6 ans que je travaille.
Plus, non ?
Non, je suis sortie de l'école d'italien en 2017.
Ah ok, ouais. Autant pour moi.
Et j'ai fait un peu comme Marguerite. J'ai créé mon autre entreprise et j'ai aussi travaillé pour d'autres.
Avec ce métier, vous arrivez à gagner votre vie bien ou modestement ou...
Ça dépend des moments. Ouais. Ouais. C'est assez variable en fait. On fait pas mal de sous-traitance pour des artisans, pour des entreprises. Et donc il y a des moments où on a un travail plutôt fixe, des projets à plus ou moins long terme. Et donc là, on est tranquille pendant plusieurs mois. Et après, il y a des mois où il y a beaucoup moins de travail. Et donc là, il faut avoir fait attention avant d'avoir mis un peu de côté pour pouvoir survivre. Mais en tout cas, pour l'instant, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai jamais été dans le besoin. J'ai toujours pu gagner ma vie par ce métier. Et donc ça, c'est une grande chance. Et sans avoir beaucoup cherché de travail, en fait. C'est souvent par le bouche à oreille... Je sais que tel artisan a besoin d'aide, donc on va l'appeler. Et en fait, c'est aussi un milieu pas très très grand. Et donc, on se connaît tous plus ou moins. Puis, à force de travailler pour 2-3 personnes, en fait, ils vont nous recommander à d'autres personnes. Et donc, ça grossit un peu comme ça aussi.
Oui, c'est vrai. Et je rejoins Marguerite. C'est un peu en dents de scie, donc il faut savoir équilibrer les moments où on gagne pas mal et les moments où on gagne rien. Et depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai gagné ma vie correctement. Pas énormément, mais correctement. Donc ça, c'est chouette.
Et ce qui est assez agréable aussi, je trouve, dans ce... c'est un peu en dents de scie, mais en fait, quand on n'a rien à faire, on peut aussi en profiter pour faire de la création, pour travailler pour soi. Et donc... Et en fait, s'exprimer vraiment et développer aussi notre vocabulaire graphique, notre vocabulaire créatif, et pouvoir proposer des expositions comme vous êtes venu voir l'autre jour là à Rosier de Touraine. Et ça, c'est chouette. En fait, c'est dans ces moments-là aussi où c'est plus calme qu'on va pouvoir en profiter et en tirer profit. Donc ça peut être un peu flippant, on va dire, de se dire, pendant 2 mois, j'ai rien à faire, je vais peut-être être à la rue, je sais pas. Mais en fait, c'est aussi un moyen de se dire, je prends du temps pour moi, je crée des choses et ça mènera peut-être quelque part aussi. Donc, c'est pas du temps perdu et c'est pas du temps pour rien non plus, quoi.
Oui. faut gérer le stress des revenus. Ça, c'est le point difficile. Parfois, c'est lourd quand ça dure trop longtemps. Ouais. Le creux. Mais c'est chouette de pouvoir prendre ce temps-là.
Ok. Qui sont vos clients ? À qui vous vendez en général vos œuvres, que ce soit des particuliers, des musées, des monuments, etc. Et où est-ce que vous exposez aussi ?
Les clients sont très variés. Il va y avoir les musées ou les châteaux. Ça, c'est pour les chantiers de patrimoine. Et il va y avoir des clients particuliers, mais très fortunés, qui sont en général d'un milieu particulier. Ça va être beaucoup des étrangers, des fortunes du pétrole ou etc., des gens un peu comme ça. Donc on va travailler aussi pour ces gens là parce qu'ils font travailler des artisans à la main. C'est des choses qui sont très longues à faire, donc ils coûtent très cher. Donc c'est aussi ces gens là qui ont
les moyens
de se faire des meubles tout sculptés ou des boiseries ou des choses comme ça. Et ensuite, ça va être pour ma part des clients particuliers qui vont avoir des commandes beaucoup plus modestes, mais ça reste quand même des grosses sommes pour monsieur tout le monde, qui vont commander des choses plus personnelles. Ça peut être pour des événements, pour des cadeaux, ça peut être des portraits par exemple de membres de la famille, des choses comme ça.
Ouais, ça, bah, je rejoins Maëlys, c'est la même clientèle un peu que j'ai, c'est très varié. Et c'est ça qui est intéressant aussi, ça permet d'avoir à la fois des très très gros projets et des projets à plus petite échelle. Et c'est ça qui fait la richesse du métier aussi, c'est de jamais avoir la même chose à faire. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça ce que j'aime bien, d'avoir beaucoup de changements, en fait. Voilà.
Ok. Et du coup, où est-ce que vous exposez, et si vous exposez, en France ou peut-être même à l'étranger ?
À l'étranger, pas encore. La prochaine... alors, on va ouvrir notre atelier pour les Journées européennes des métiers d'art. Donc ça, ce sera un peu le prochain endroit où voir nos sculptures. Donc c'est le 1er et 2 avril. Le week-end, le samedi et dimanche 1er et 2 avril, à Villandry, dans les ateliers d'art de Villandry, où on est basé, de 11h à 18h, pour les petites informations pratiques. Et sinon, pour ma part, j'expose pas encore dans des galeries ou des choses comme ça, donc c'est plus ponctuel.
Oui, c'est ça, c'est un peu aussi au gré des rencontres qu'on fait. Moi, pour ma part, j'ai exposé que 3 fois. Et en fait, c'était des rencontres, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont proposé de venir exposer à tel événement. Mais effectivement, ouais, j'expose pas en galerie ni rien. Et pour l'instant, je cherche pas non plus à exposer beaucoup, vu que j'ai pas beaucoup de créations propres à montrer. Mais c'est toujours agréable, en fait, quand on expose, de voir, d'avoir un retour des gens, le regard des personnes sur ce qu'on fait. On voit si c'est apprécié ou pas, et c'est toujours... même une critique mauvaise est bonne à prendre, quoi. Donc c'est assez constructif, je trouve, d'exposer.
Ok.
Pouvez-vous nous donner une échelle de prix pour vos sculptures ?
Bah, ça, c'est vraiment... Ça dépend vraiment de la sculpture, en fait. Ça va dépendre de la taille de la sculpture... du temps qu'on va mettre à la sculpter, du matériau qu'on va employer pour la faire. Donc, tu dirais quoi, Maëlys ?
Je pense que c'est toujours un peu délicat parce que comme on passe beaucoup de temps, les sculptures coûtent très cher. Et pour que les gens puissent se représenter, il faut compter en salaire. En fait, quand on passe 2 semaines à faire une sculpture, il faut qu'on puisse gagner au moins un demi-salaire. Donc, et ça va très vite de passer 2 semaines à faire une sculpture. Moi, j'ai un peu une échelle de prix sur mes petites sculptures que je fais, des petits personnages. Et ça commence, les personnages de 30 cm à 1 500 € pour le bois. Après, c'est moins cher quand c'est d'autres matériaux, parce que le bois, c'est le matériau le plus long.
Il prend plus de temps, oui.
Ouais. Donc voilà, c'est la difficulté qu'on a, c'est que on met beaucoup de temps à faire ce qu'on fait, et donc si on veut gagner notre vie, on est obligé de le payer, de le facturer cher ou alors de trouver des moyens en faisant de la reproduction en moulage ou des choses comme ça, de faire des choses moins chères qui soient plus accessibles pour monsieur tout le monde.
Oui, c'est vrai qu'il faut se dire en fait que si on passe 2-3 semaines à faire quelque chose, c'est le même temps que quelqu'un qui va, enfin qu'un ingénieur qui va passer devant son ordi toutes ses journées. Au final, à la fin du mois, sur ses 4 semaines, il aura un salaire hyper convenable. Et en fait, nous, si on y a passé 3 semaines, bah, il faut que ce soit 3 quarts du salaire d'un. Enfin, voilà, il faut pouvoir vivre dessus, quoi.
Ouais.
Même d'un SMIC, enfin. C'est. Oui. Baby. Baby. Baby, baby, j'ai câblé pour toi, sans intérêt, ne demande pas pourquoi, ce soir j'innove, tu fumes la zaza, un tas de tourments qui me suivront pour le reste de ma life. Dangereux et se consomme comme une drogue. La première fois qu'on s'est vu, c'était nasty dans la loge. J'aime beaucoup ton approche. Mais tu sais que je n'aime que le loving. Mon cœur est codé, non. Mais qu'as-tu encore t'expliquer qui pourrait éclaircir ce mystère que t'entretiens autour de moi. La nuit nous appartient, mais tu veux continuer jusqu'à tout déchirer, baby. J'ai câblé pour toi, sans intérêt. Ne demande pas pourquoi. Ce soir j'innove, j'fume la zaza. Un tas de tourments qui me suivront pour le reste de ma life.
Combien de temps vous a pris votre sculpture la plus longue ?
Moi, ce serait, on va dire une sculpture que j'ai fait pas en sous-traitance, mais vraiment pour moi, c'était environ 160 heures. Donc, ça représente un mois et demi de travail.
D'accord.
Ouais.
Okay.
C'était quoi ?
C'était un masque en bois qui représentait En fait, c'était pour un client qui voulait que. Donc, c'était c'est un rappeur. Et son nom de scène, c'est Sargon. Et donc, Sargon, c'est un roi mésopotamien. Qui a vécu plus ou moins. Entre 3 et 2000 avant Jésus-Christ. Et en fait, on a retrouvé. Au musée de Bagdad, il y avait un masque en bronze de ce roi. Et donc, le rappeur voulait que je reproduise ce masque pour qu'il puisse le mettre sur scène, en fait. Donc moi, je l'ai réalisé en bois. Et ensuite, au rappeur, je lui ai livré un moulage de ce bois en résine pour qu'il puisse l'enfiler et que ce ne soit pas trop lourd. Et en fait, j'ai dû... pour que le masque rentre sur sa tête, j'ai dû m'adapter à la morphologie du rappeur. Et donc en fait, j'ai fait un mix entre les images du masque que j'avais et la tête du rappeur. Et donc ouais, ça m'a pris un mois et demi de travail.
Et vous l'aviez exposé pour le...
Ouais, exactement, à Rouziers-Touraine.
Ouais, Rouziers-Touraine.
Moi, je sais pas trop. Je pense que ça va être dans les mêmes... à peu près dans les mêmes eaux. voilà. Je pourrais vous dire quelle est la plus grosse sculpture que j'ai faite, mais c'est pas forcément celle qui m'a pris le plus de temps.
Donc, vous pouvez aussi le dire.
Oui. J'avais fait, bah, c'était dans le cadre d'un concours de sculpture en plein air. On se rassemble pendant une semaine, il y a un thème, chacun reçoit un tronc et chacun fait une sculpture. Donc le temps était quand même assez limité. Et j'avais fait une femme nue dans une position un peu recroquevillée, enfin debout mais avec les bras contre la poitrine et les jambes croisées. Donc à la taille réelle, taille humaine, voilà. Et ça m'avait... Du coup, c'était en 4 jours de sculpture, parce qu'après, il y avait la fin, etc. Donc, c'était chouette. Parfois, d'avoir une petite pression de temps, ça permet de se mettre dans un mode efficace. Je pense qu'on connaît tous ça sur les rendus.
Et puis après, quand tu attaques un tronc, tu n'utilises pas forcément des petits outils à main. Tu peux utiliser la tronçonneuse, ça va quand même plus vite. Mmh. Ça permet d'avancer, quoi.
Oui.
Ok.
Sur ta feuille.
Ah, ok. Pardon. Combien de sculptures vous faites par mois?
Ça dépend. Parfois, ça peut prendre plusieurs mois d'en faire une.
Ouais.
En ce moment, moi, je travaille sur des gros ornements qui vont être sur un toit. Et j'en fais plusieurs par mois. Parce que c'est des choses qui sont assez rapides à faire, qui ne sont pas en bois. Et Marguerite. Ouais.
Et moi, je travaille sur des boiseries qui vont être mises dans une villa. Et en fait, il y a 50 mètres à faire. Et donc, en fait, c'est très répétitif, c'est la même chose. Et donc, en fait, ça me prend plusieurs mois de faire tout ça. Et là, j'ai fait... Là, pour avoir une petite idée même du temps, en gros, pour faire 6 mètres de cette boiserie, j'ai mis un mois et demi. Voilà, donc je vais travailler. Mais bon, après, en fait, comme c'est des montants de 3 mètres, disons que je fais une pièce en plus ou moins un mois, quoi. Et donc, voilà.
Okay.
Mais parfois, on fait 6, 7 sculptures en un mois. Enfin, c'est vraiment très...
C'est très variable.
Très variable, oui. Ça dépend vraiment, en fait, de la sculpture, de sa complexité, du matériau aussi, comme on disait tout à l'heure.
Ok.
Voilà.
Ok. Quel est votre artiste préféré en art?
Waouh.
Vaste question.
Oui.
Pour ma part, après, moi, j'ai... Il y a beaucoup, en fait, d'art qui me touche, autant l'art abstrait que l'art plus figuratif, hein. Après, si je vais quand même choisir un sculpteur, parce que bon, je fais de la sculpture. Et moi, j'aime beaucoup Brancusi. Il y a un petit musée à Paris sur lui. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un art qui est à la fois figuratif et abstrait. En fait, c'est dans ses sculptures, on a l'impression qu'il essaye de juste montrer l'essence d'une chose. Par exemple, il y a une sculpture qui s'appelle L'oiseau. Et en fait, donc pour lui, c'est figuratif parce qu'il voulait que ce soit un oiseau. Et en fait, pour quelqu'un qui ne sait pas que c'est un oiseau, ça ne se voit pas du tout. Et c'est après, en regardant le titre, on se dit « Ah oui, effectivement, je comprends ce qu'il a voulu montrer de l'oiseau dans cette sculpture. » Et je trouve que c'est... voilà, on va voir, ça va être beaucoup... il va beaucoup travailler sur la pureté de la ligne, du dessin, du modelage. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, d'essayer de comprendre l'essence d'une chose... et de voir au-delà de la matérialité, quoi, au-delà des apparences, ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai l'impression que Brancusi, il a un peu voulu faire ça, aller voir à l'intérieur de quelque chose qu'il y avait et le rendre visible, en fait. C'est un peu rendre visible l'invisible. Classe. Voilà.
Et moi, il y a plusieurs noms qui me viennent. Je vais peut-être dire celui qui est le plus connu, comme ça les gens ne vont pas dire que... c'est snob. J'aime un des artistes que j'aime beaucoup, je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est un peintre qui s'appelle Henri de Toulouse-Lautrec, un peintre du 20e siècle. Et ce que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait, c'est que lui, il est un peu traîné, on va dire, dans plein de milieux, et il dessinait les gens de manière très honnête, sans forcément essayer de les faire plus beaux ou moins beaux, mais en essayant de dans les c'est beaucoup autour des visages et des positions des corps, etc., de saisir le caractère unique de chaque personne, et sans jugement, parce qu'il allait dans des maisons closes, il traînait beaucoup dans les bars à Paris, dans le milieu de la nuit, donc il a dessiné beaucoup des chanteuses de cabaret, les gens dans les cabarets, un peu le côté peut-être sombre aussi de l'humain, avec les gens qui boivent, qui sont malheureux, etc., mais d'une manière très belle, enfin moi je trouve touchante, et souvent c'est ça que j'aime dans l'art, c'est quand il y a à la fois du sombre et un regard quand même positif sur les choses difficiles. Donc voilà.
Ok. Quelle sculpture que vous avez fait vous préférez?
Vaste question. En fait, je trouve que ça dépend de ce qu'on a voulu y mettre. Enfin, je pense pas avoir une sculpture préférée que j'ai faite. Après, je suis très fière de certaines sculptures, mais c'est plus dans le côté belle réalisation et tout. Mais après, il y a des sculptures qui sont peut-être moins belles, enfin moins esthétiques, mais où ce que j'ai voulu y mettre était beaucoup plus personnel. Et donc, voilà, ça se jouait un peu à ça. Enfin, je trouve ça pas facile comme question, en tout cas. Je sais pas pour toi, Maëlys, mais...
Oui, je suis d'accord, c'est pas simple. Puis, comme tout ce qu'on réalise, à un moment donné, c'est aussi lié à des souvenirs. Donc, il y a ça qui joue. Moi, il y a une sculpture que j'aime beaucoup, mais c'est parce que j'ai beaucoup de retours positifs dessus. Et je sens qu'elle touche les gens, et ça me plaît. C'est une femme que j'ai faite, elle était exposée aussi à Rosier. Ouais. Qui a un voile, elle se tient de manière assez fière, elle croise les bras et puis elle regarde par-dessus son épaule. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en général, quand j'expose, c'est la sculpture qui plaît le plus aux gens, qui touche le plus les gens. Et je trouve ça chouette. Voilà, donc j'aime bien celle-là.
Ok. Quelle sculpture a eu plus de succès que les autres?
Bon, bah, j'ai déjà répondu.
C'est ça. Moi, je dirais que du coup, c'est le masque dont je parlais tout à l'heure, le masque en noyer de Sargon. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi assez impressionnant d'avoir ce visage qui est aussi souvent exposé à hauteur de notre visage. Et en tout cas, bon, en général, les visiteurs s'arrêtent devant et en parlent pas mal, quoi.
Ouais, c'était beau.
Ouais.
Merci.
Et du coup, vous l'avez fait en noyer, mais pourquoi vous avez choisi le noyer par rapport à un autre bois?
Déjà, j'aime beaucoup la couleur du noyer en général. Et après, le noyer, c'est un bois qui est très agréable à travailler, je trouve, parce qu'il va avoir des fibres assez denses. Et contrairement au chêne, en fait, on peut faire on peut aller beaucoup plus dans le détail, en fait, et dans la finition. Et parce que souvent en sculpture, on va sculpter du chêne, du tilleul, du noyer, du poirier et d'autres bois un peu comme ça. Mais les principaux, ça va être tilleul, chêne, noyer. Et en fait, dans le tilleul, c'est un bois très tendre, mais la finition va pas être forcément très belle et très fine. Et donc le noyer, c'était un peu le bois idéal pour faire ce genre de sculpture. Voilà.
Okay.
Est-ce que c'est votre rêve ou votre passion depuis toute petite?
Alors moi, non. J'ai découvert ça, comme je disais tout à l'heure, un peu par hasard. Mais c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup. Après, je pense que je pourrais en faire un autre. En tout cas, pour l'instant, ça me plaît. Et comme je peux en vivre, c'est d'autant mieux. Après, c'est vrai que j'ai toujours aimé, depuis que je suis toute petite, dessiner. J'ai toujours été attirée par le côté manuel aussi. Mais la sculpture, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert un peu sur le tard, quoi.
Moi, je dirais un peu pareil. J'ai toujours rêvé d'être artiste, ça c'est sûr. J'ai retrouvé un agenda que j'avais, un truc d'idole du primaire, ou dans « Qu'est-ce que tu voudras faire plus tard ?» il va marquer « Être artiste ». D'accord. Et la sculpture, j'ai découvert pendant le lycée. Donc, c'est venu après. Ça a été un coup de cœur. Actuellement, je ne me verrais pas faire autre chose.
Et est-ce qu'on peut venir vous voir travailler du coup, ou est-ce qu'on peut venir vous voir pour découvrir votre métier?
Alors c'est pour les journées européennes des métiers d'art, voilà, et ce sera à Villandry dans notre atelier, tout près de l'église de Villandry, et ce sera le 1er et 2 avril. Et bah ce week-end-là, ouais, oui. Vous pouvez venir, il n'y a aucun problème, donc ce sera, l'atelier sera ouvert de 11h à 18h, et Maëlys sera présente parce que moi je serai en vacances, voilà.
Et je ferai des enfin je serai en train de sculpter pendant que l'atelier sera ouvert, donc je serai en démonstration. I'm always singing about my fickle feelings, cause there ain't no antidote. Laying here in silence, cause I cannot find a damn remote. Even if I found it, I would probably just flip and flip. In the midst of August, getting started on my Christmas list. I've been thinking about you and I wanna go do something nice. I can't take rejection and that's why I paid a crazy price. If you ain't ecstatic, I feel like I blew it big time. I'm a little manic, I just wanna see a big smile. Nothing means more to me than when I hear that you're proud of me. Acting like a kid because I never quite learned how to be. Peanut butter waffles when it's dinner time and I'm alone. Hiding in my castle but the walls are made of styrofoam. I know there's no in between, it's either high, low. You know how to balance but I don't. I wish I could finally just find home. I know there's no in between, it's either high, low. You know how to balance but I don't. I wish I could finally just find home. I'm drinking coffee at 3 a.m. playing Battlegrounds and Overwatch. Volume up to 50 cause it get too trippy if it's not. I can hear the fridge buzz, I can hear my thoughts clear. I can hear the room ring, I can hear who's not here. I let my little bro talk me into buying designer clothes. He tell me I'm flexing but I don't even feel kinda close. Them bitches were brand new, but they look like old shoes. Coulda bought a puppy or 220 cold brews. When somebody asks me how I been, I get too personal. Catching up in small talk are two things I never learned to do. I make life decisions in the time it take to brush my teeth. Can't remember where I been, don't know where I'm gonna be. I know there's no in between, it's either high, low. You know how to balance but I don't. I wish I could finally just find home. I know there's no in between, it's either high, low. You know how to balance but I don't. I wish I could finally just find home.
Je suis sur le site de Marguerite Sempré. Et alors je vois une pièce parmi d'autres qui s'appelle Genesis, pierre calcaire et feuilles de cuivre. Alors qu'est-ce que vous aimeriez en dire de cette pièce-là? Donc si je la choisis, c'est peut-être parce qu'elle est un peu différente en tout cas de ce que vous pouvez proposer d'autre.
Alors voilà, cette sculpture, c'est des petits œufs que j'ai rassemblés. Et en fait, c'est comme si l'œuf était fendu. Donc on voit, il y a une petite trace, comme si l'œuf était en train d'éclore. Et donc sur cette petite brisure, j'ai mis de la feuille de cuivre pour la faire ressortir. La feuille de cuivre, c'est comme la feuille d'or, c'est le même éclat. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai voulu dire dans cette sculpture, mais je sais pas. En fait, je crois que j'aime bien essayer de comprendre souvent, même dans mes lectures et quand je rencontre des gens, de comprendre... un peu ce qui les habite et qu'elle est ouais, d'aller un peu au-delà des apparences et de creuser vraiment et d'aller limite à l'origine en fait de ce qu'ils sont. Et en fait dans Genesis c'était un peu ça, c'était Voilà, en fait, à l'origine, qu'est-ce qu'il y avait ? Enfin, c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. L'œuf et la poule, c'est quel est l'anim... Enfin, qu'est-ce qui est arrivé en premier ? Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule ? Et c'est... En fait, c'est tout le mystère de l'origine et de... Enfin... Et la création, c'est un peu ça aussi. C'est... Enfin, c'est... Ouais, ça, c'est peut-être aussi un parallèle avec même la création de la Terre, de l'homme, de l'univers. C'est qu'est-ce qui est premier et comment ça arrive. Et en fait, même là, la brisure que je viens dorer, ça montre aussi que même dans les faiblesses, même la faiblesse et même la brisure est belle. Et c'est ça qui va... Souvent aussi, c'est nos blessures, en fait, qui vont nous magnifier en quelque sorte, parce qu'on peut prendre appui dessus, et si on les accepte, ça va nous aider à rebondir beaucoup plus haut et aller au-delà et à nous dépasser.
Ça fait penser à une technique japonaise, je crois, de réparation, en fait, de la vaisselle cassée.
Exactement. Mais oui, ça, j'aime beaucoup aussi cette technique de... Quand un vase est brisé, en fait, on va le recoller et on ne va pas le recoller de manière pas très belle. En fait, on va magnifier le collage. Et en fait, je crois que c'est dans la colle, ils mettent une poudre d'or. Et ce qui fait qu'en fait, on voit toutes les cassures. Et c'est ce qui va rendre le vase beaucoup plus beau.
Alors, merci Internet qui me signifie que ça s'appelle le kintsugi. Et alors, une dernière question sur cette sculpture Genesis. Parce que sur les photos de votre site, on voit des groupes, donc deux. Il y en a cinq ou trois. Donc, est-ce que c'est une sculpture à géométrie variable ?
Exactement. Non, en fait, j'en ai fait deux différentes. J'en ai fait une avec... Il y en avait trois qui étaient exposées à Rouziers et j'en avais fait cinq autres. Et alors, en fait, c'est juste deux sculptures différentes, mais sur le même thème. Mais toujours, ouais... En fait, un œuf tout seul, je trouve ça triste. Je les regroupe. Voilà.
Merci. Et si je vais sur le site de Maëlys Paris, là, je vois une sculpture. Alors, peut-être qu'on est sur la même thématique. Vous allez pouvoir nous le dire. Donc, qui est aussi peut-être singulière avec ce que vous... Enfin, en tout cas, qui me semble singulière avec ce que vous proposez par ailleurs. Donc là, c'est une pièce en tilleul qui fait précisément 47 cm et qui s'appelle Naissance.
C'est une pièce que j'ai faite quand j'étais à l'école encore. On avait un thème libre sur... C'était autour de Noël, donc le thème, c'était Noël. Et j'ai réfléchi à ce récit de Noël. Et je me suis dit, dans l'art, on a plein de nativités qui sont représentées, voilà, très classiques. Mais on ne représente jamais le moment de la naissance, précisément, de cet enfant. Et donc, j'ai voulu faire un accouchement. Voilà, donc j'ai un peu stylisé, j'ai mis les mains de la maman à la place des jambes qui accueillent la tête du bébé et les mains du papa qui accueille en dessous, qui tire la tête. Une sculpture que j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de monde, dont des sages-femmes qui m'ont dit waouh, c'est on s'y croit. Alors j'ai jamais eu d'enfant encore, donc j'ai jamais vécu d'accouchement, mais apparemment j'ai quand même bien. D'après certaines personnes, trouver le truc. Donc voilà. Et c'est aussi une des sculptures que j'ai faites qui a les réactions les plus polarisées. Soit les gens trouvent ça super, soit ils trouvent ça vraiment bizarre.
Mais alors, c'est-à-dire qu'exposer une pièce comme celle-là, c'est peut-être pas forcément évident. Où est-ce qu'on peut la montrer ?
Je me suis pas restreinte pour l'exposer. Je sais qu'il y a des gens qui vont toujours la trouver un peu étrange, mais je l'ai exposée dans des salons, des choses comme ça. Mon but avec cette œuvre, c'était pas de choquer ou de faire quelque chose qui soit trop explicite, on va dire, montrer des organes sexuels ou je sais pas. On voit, on va dire, je sais pas à quel point on peut pas crûment. À la radio.
Bah oui, on voit un pubis, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais qui est assez simplifié. Et donc, pour moi, il n'y a rien qui est choquant, même s'il y a des gens qui sont un peu gênés. Donc, je ne mets pas de limite pour l'exposer.
Et alors, une autre chose aussi qu'on voit dans vos œuvres sur votre site, il y a certaines sculptures qui sont peintes en bleu.
Oui, je vais pas mal ça. Je sais pas pourquoi, c'est assez instinctif. J'aime le bleu dans les œuvres d'art, je trouve que c'est une couleur très forte, très, qui a à la fois une puissance et une douceur. Voilà, je trouve que c'est une couleur qui a une connotation féminine pour moi. C'est pour ça que je ne comprends pas trop le bleu pour les garçons et le rose pour les filles, parce que pour moi, le bleu, c'est très féminin. Et donc, c'est souvent mes sculptures de femmes qui sont bleues.
Et donc, par exemple, une sculpture qui s'appelle « Femme en bleu », voilà, donc là, qui est en tilleul et peinture acrylique, donc 60 cm. Là, on peut peut-être dire aussi que vous avez choisi une silhouette féminine, je ne sais pas comment la qualifier pour ne heurter personne, mais qui, disons, qui est réaliste. Vous n'avez pas forcément choisi une silhouette sylphide ou comme on peut trouver dans les magazines.
Oui, c'était un peu mon but aussi, d'avoir un corps qui soit... qui soit normal. Réaliste. Oui, vous l'avez bien dit.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité.
Du masque du roi mésopotamien, ce qui me semble que à l'exposition il y avait un petit écriteau qui parlait, alors je ne sais plus exactement, mais de la féminité en fonction des différentes cultures. Donc ma question c'était est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée-là. Et ma deuxième question c'est est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sculptrices comme vous.
Alors oui, en effet, c'est vrai que l'exposition à Rosier de Touraine, le thème c'était quel féminin. Donc j'ai exposé un masque d'un roi babylonien, donc c'était pas vraiment une femme. Mais en fait, ce que j'avais voulu montrer aussi, c'était que dans certaines cultures, et même assez proche de nous, donc aussi bien, là c'était la culture babylonienne, mais on peut dire la même chose des Égyptiens, et même beaucoup plus proche de nous, sous Louis XIV par exemple, en fait, que le fait de se maquiller, de prendre soin de son corps, parce que sur la sculpture du roi babylonien, en fait, on voyait, c'est la chevelure et la barbe qui sont extrêmement travaillées, et donc on voit qu'il y a un grand grand soin porté à son visage, à son corps, à son apparence, et c'est quelque chose qui aujourd'hui va, pour nous, va être beaucoup plus féminin que masculin, et en fait ça dépend vraiment des civilisations et des cultures, et comme je disais, même sous Louis XIV, en fait, tous les hommes étaient poudrés, perruqués, maquillés, et c'était normal, et en fait, voilà, aujourd'hui... souvent, c'est les femmes qui se maquillent, c'est les femmes qui sont, c'est un peu le cliché, mais qui prennent soin de leur corps, qui prennent soin de leurs cheveux, alors que, c'est... En fait, le féminin n'est pas forcément quelque chose pour la femme. Enfin, c'est ça ce que je voulais un peu montrer en exposant cette sculpture. Et après, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes sculpteurs ? Quand même, ouais. Et, je dirais peut-être de plus en plus, même... Dans notre école, pour vous dire, nous, on était dans mon année, on était 8 sculpteurs, je pense, et il n'y avait qu'un seul garçon. Mais après, ça dépend des années. Il y a des années où c'est plus 50-50. Mais c'est un métier qui se féminise un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maëlys, mais...
Oui, c'est un métier où il y a, dans les professionnels actuellement, plus d'hommes. Mm. Pas mal, beaucoup plus. Enfin... Oui, pas mal plus d'hommes et qui se féminisent. Et dans les jeunes, je pense qu'on est plus à 50-50.
Oui.
Voilà.
Donc, après, il y a toujours eu des sculpteurs femmes. J'aime pas trop dire sculptrice, en fait. j'aime pas trop la consonance du mot, comment ça sonne. Mais même Camille Claudel. Il y a une sculpteur que j'aime beaucoup, qui est anglaise, qui s'appelle Barbara Hepworth. Et qui a vécu dans les années 40-50, et qui m'a beaucoup touchée aussi dans ce qu'elle fait, et qui faisait des œuvres vraiment très très grandes. Mais il y a toujours eu des femmes, en fait, sculpteurs depuis toujours, quoi. Et peut-être qu'on en entend moins parler aussi. Et effectivement, il y en a peut-être sûrement moins que d'hommes, mais ouais, voilà.
Et en tout cas, dans le métier de sculpteur, dans la sculpture, dans le milieu de la sculpture, j'ai eu plutôt une bonne expérience avec peut-être les professionnels plus âgés qui sont plus souvent des hommes. C'est pas forcément le cas dans tous les métiers d'art ou dans tous les chez tous les professionnels, mais moi je trouve qu'en tout cas là-dessus c'était plutôt bien, parce que la reconnaissance du travail est vraiment basée sur qu'est-ce que tu fais. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit tu viens une semaine, on essaye, on voit ce que tu fais et puis on voit comment ça se passe. Mais j'ai pas senti de jugement sur le fait d'être une femme, qui pourrait être le cas dans certains métiers.
Oui, c'est vrai que là, on se base vraiment sur la technique, sur ce qu'on peut faire, sur le résultat. Et donc, en fait, on juge le résultat et on juge pas la personne. Donc ça, c'est assez agréable.
Merci à Marguerite Saint-Pré et Maëlys Paris, sculpteurs, d'être venus dans cette émission La Méridienne, invitée par Matisse et Shona.